Ivan Turgenev, Anouchka. J'avais alors 25 ans. Cela indique assez que ce sont de vieux souvenirs, fit-il en commençant. Maître de mes actions depuis peu, j'avais résolu de voyager, non pour compléter mon instruction, comme on disait dans ce temps-là, mais pour courir le monde. J'étais jeune, allègre et bien portant, possesseur d'une bourse bien garnie et libre de tout souci importun. Je me préoccupais point de l'avenir, me livrant à toutes mes fantaisies. En un mot, je vivais comme une fleur qui s'épanouit au soleil. Cette idée que l'homme n'est pas une plante et que sa fleur ne peut durer longtemps ne s'était pas encore présentée à mon esprit. La jeunesse, dit un proverbe russe, se nourrit de pain d'épices dorées qu'elle prend naïvement pour le pain quotidien, puis un jour le pain même vient à manquer. Bon, mais à quoi bon ces digressions? Je voyageais au hasard, sans plan prémédité, faisant une halte aux endroits où je me trouvais bien, partant immédiatement dès que j'éprouvais le besoin de voir de nouvelles figures, rien de plus. C'étaient les hommes qui m'intéressaient exclusivement. J'avais une aversion prononcée pour les monuments remarquables, les collections célèbres et les Cicerone. La galerie verte de Dresde me donna presque un accès de fureur. Quant au spectacle de la nature, il me causait des impressions très vives, mais je ne recherchais pas le moins du monde ce qu'on nomme communément ses beautés. Les montagnes, les rochers, les chutes d'eau, qui vous frappent d'étonnement, bon, je n'aimais pas que la nature s'imposât à mon admiration, qu'elle troublât mon esprit. En revanche, je ne pouvais vivre sans mes semblables. Leurs paroles, leurs rires, leurs mouvements étaient pour moi des objets de première nécessité. Je me sentais souverainement bien au sein de la foule. Je suivais gaiement le flot des hommes, criant lorsqu'ils poussaient des cris, et les observant attentivement tandis qu'ils se livraient à ces transports. Oui, étudier les hommes faisait en vérité mon bonheur. Et encore, étudier est-il le mot? Non, je les contemplais, me délectant d'une immense curiosité. Mais encore une fois, je sors de mon sujet. Ainsi donc, il y a 20 ans environ, j'habitais la petite ville de Z, sur les bords du Rhin. Je cherchais l'isolement. Je venais d'être blessé au cœur par une jeune veuve dont j'avais fait la connaissance aux eaux. Jolie et spirituelle, elle coquetait avec tout le monde, et avec moi particulièrement. Puis après m'avoir encouragé, elle m'avait porté un coup cruel en me sacrifiant d'un lieutenant bavarois aux joues roses. Cette blessure n'avait pas, à vrai dire, beaucoup de profondeur, mais je trouvais convenable de m'abandonner pour quelque temps au regret et à la solitude, et je m'établis à Z. Ce n'était pas uniquement la situation de cette petite ville au pied de deux montagnes élevées qui m'avait frappé. Elle m'avait séduite par ses vieilles murailles flanquées de tours, ses tilleuls séculaires, le pont escarpé sur lequel on traversait sa rivière limpide, confluent du Rhin et principalement par son bon vin. Après le coucher du soleil, nous étions au mois de juin. De charmantes petites Allemandes aux cheveux blonds descendaient se promener dans ces rues étroites, saluant l'étranger qu'elles rencontraient d'un « Guten Abend » dit d'une voix gracieuse. Quelques-unes d'entre elles ne se retiraient pas encore après que la lune s'était levée derrière les toits pointus des vieilles maisons, faisant scintiller la clarté de ces rayons immobiles, les petites pierres dont les rues étaient pavées. J'aimais alors errer dans la ville de Z. La lune semblait la regarder attentivement du fond d'un ciel pur, et la ville sentait ce regard et se tenait calme et comme en éveil, tout inondée de cette clarté qui remplit l'âme d'un trouble mêlé de douceur. Le coq qui surmontait le clocher gothique brillait d'un pâle reflet d'or. Un semblable reflet rampait en petits serpents dorés sur le fond noir de la rivière. Aux étroites fenêtres, sous des toits d'ardoise, brillaient des lumières isolées. L'Allemand est économe. La vigne élevait mystérieusement ses festons au-dessus des murs. Parfois, un frôlement se faisait entendre dans l'obscurité, près de la vieille citerne creusée sur la place de la ville. La garde de nuit répondait par un coup de sifflet prolongé, et un honnête chien poussait un grognement sourd. Puis un souffle de vent venait si doucement vous caresser le visage, les tilleuls exhalaient un parfum si odorant qu'involontairement la poitrine se dilatait de plus en plus et que le nom de Marguerite, moitié exclamation, moitié appel, voulait s'échapper des lèvres. La ville de Z est à 2 kilomètres du Rhin. J'allais souvent admirer ce fleuve magnifique et tout en remontant dans mes rêves, non sans un certain effort, l'image de ma perfide veuve, je passais des heures entières sur un banc de pierre au pied d'un frêne gigantesque. Une petite madone, aux traits presque enfantins, dont la poitrine laissait voir un cœur rouge traversé de plusieurs glaives, me regardait mélancoliquement du milieu des branches. Sur la rive opposée s'élevait la ville de L, un peu plus grande que celle que j'habitais. J'étais venu un soir prendre place sur mon banc favori, et je regardais tour à tour l'eau, le ciel et les vignes. En face de moi, des enfants à cheveux blonds grimpaient sur la coque goudronnée d'un bateau qui avait été laissé sur le sable du rivage, la quille en l'air. De petits bâtiments, aux voiles légèrement gonflées par la brise, s'avançaient avec lenteur. Des vagues verdâtres passaient devant moi en glissant, s'enflaient un peu et expiraient avec un faible murmure. Tout à coup, je crus distinguer le bruit d'un orchestre qui retentissait dans le lointain. Je prêtai l'oreille. On jouait une valse dans la ville de L. La contrebasse ronflait par intervalles, le violon chantait confusément. Les sifflements de la flûte étaient seuls distincts. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je à un vieillard qui s'était approché de moi. Il portait, selon la mode du pays, un gilet de peluche, des bas bleus et des souliers à boucles. « Ce sont des étudiants qui sont venus de B pour la commerce, » me répondit-il, après avoir fait passer sa pipe à l'autre coin de sa bouche. « Voyons ce que c'est qu'un commerce, » me dis-je. D'ailleurs, je n'ai pas vu la ville de L. Je hélai un batelier et me fit transporter sur l'autre rive. Bien des personnes ignorent probablement ce que signifie ce mot de commerce. On désigne ainsi une fête à laquelle viennent prendre part tous les étudiants d'un même pays ou d'une même société, Landsmannschaft. La plupart des jeunes gens qui se rendent à ces réunions porte le costume traditionnel des étudiants allemands, qui se compose d'une redingote à brandebourg, de grandes bottes et d'une petite casquette dont les galons sont de la couleur du pays. Les étudiants se rassemblent pour le banquet, que préside un senior ou ancien de la bande, et restent à table jusqu'au matin. On boit, on chante le Landesvater, le Gaudeamus, on fume, on se moque des Philistins, et souvent on se donne le luxe d'un orchestre. C'était une réunion de ce genre qui avait lieu à L dans le jardin d'un hôtel à l'enseigne du Soleil. La maison et le jardin qui donnaient sur la rue étaient pavoisés de drapeaux. Les étudiants étaient attablés sous des tilleuls. Un énorme bulldog reposait sous l'une des tables. Dans un angle, sous un bosquet de lierre, étaient assis les musiciens qui jouaient de leur mieux, en absorbant force bière pour se tenir en haleine. Un grand nombre de curieux s'étaient rassemblés dans la rue, devant la grille peu élevée du jardin, les bons bourgeois de la ville de L n'ayant pas voulu manquer l'occasion d'examiner de près les hôtes qui leur étaient arrivés. Je me joignis à ce groupe de spectateurs. J'avais du plaisir à observer ces visages d'étudiants, leurs embrassements, leurs exclamations, l'innocente présomption de la jeunesse, ses regards enthousiastes, ses rires sans motif, les meilleurs des rires possibles, ce joyeux bouillonnement d'une vie encore pleine, cet élan impétueux vers n'importe quel but, pourvu qu'il fût en avant, cet abandon plein d'insouciance, me touchait et m'entraînait. « Pourquoi n'irais-je pas à eux ?» me demandai-je. « Anouchka, n'en as-tu pas assez ?» dit tout à coup en russe une voix masculine derrière moi. « Restons encore ?» lui répondit une voix de femme dans la même langue. Je me retournai vivement, et mes regards tombèrent sur un beau jeune homme en redingote de voyage, coiffé d'une casquette. Il avait à son bras une jeune personne de petite taille, dont un chapeau de paille cachait presque entièrement les traits. « Vous êtes russe ?» leur demandai-je d'un premier mouvement dont je ne fus pas le maître. « Oui, nous sommes russes, » me répondit le jeune homme avec un sourire sur les lèvres. « Je ne m'attendais pas, lui dis-je, dans un pays perdu, à rencontrer. »« Et nous de même, » dit-il en m'interrompant. « Permettez-moi, » continua-t-il, « de vous faire connaître de vous. » « Je me nomme Gagin, et vous ? Et voici... » Il hésita un moment. « Voici ma sœur. Et vous, monsieur ?» Je me nommai à mon tour, et nous liâmes conversation. J'appris que Gagin voyageait, ainsi que moi, pour son plaisir, et qu'étant arrivé depuis 8 jours à elle, il s'y était fixé momentanément. Je dois confesser que je n'aime pas me lier avec des Russes dans les pays étrangers. Du plus loin que je les vois, leur démarche, la coupe de leurs vêtements, principalement l'expression de leur visage, me les font aisément reconnaître. Cette expression hautaine et dédaigneuse de sa nature, parfois impérieuse, s'emprunt subitement de circonspection et même de timidité. Ils semblent saisis d'une sorte d'inquiétude. Leur œil décèle une anxiété étrange. « Seigneur, n'ai-je pas dit quelque sottise ? Ne me raille-t-on pas par hasard ?» semble demander leur regard. Puis on les voit reprendre leur sérénité majestueuse jusqu'à ce qu'un nouveau sentiment de malaise vienne y jeter le trouble. « Oui, je le dis encore une fois, j'évitais toute relation avec mes compatriotes. » Néanmoins, je me sentis attiré vers Gagin du premier abord. Il y a, de par le monde, ces figures si heureuses qu'on prend du plaisir à les regarder. Elles reflètent une chaleur qui vous gagne et vous fait du bien, comme si l'on recevait une caresse. Celle de Gagin était d'une ombre. De grands yeux aussi doux que les boucles de ses cheveux, une voix dont le son faisait deviner qu'il avait le sourire sur les lèvres. La jeune fille qu'il nommait sa sœur me sembla charmante du premier coup d'œil. Il y avait une expression toute particulière, piquante et gentille à la fois, sur son visage rond et légèrement brun, dont le nez était petit et filé, et les joues potelées comme celles d'un enfant, les yeux noirs et limpides. Quoique bien proportionnée, sa taille ne paraissait pas avoir acquis tout son développement. Du reste, aucune ressemblance avec son frère. « Voulez-vous entrer chez nous ?» me dit Gagin. « Il me semble que nous avons assez regardé ces Allemands. Des Russes auraient déjà mis en pièces les verres et les chaises. Mais cette jeunesse que nous avons sous les yeux est trop réservée. » « Alors, Anouchka, n'est-il pas temps de retourner à la maison ?» La jeune fille répondit par un signe de tête affirmatif. « Mais nous demeurons hors de la ville, » ajouta Gagin, « dans une petite maisonnette isolée sur un coteau au milieu des vignes. Vous verrez si c'est joli. Venez, notre hôtesse nous a promis de nous préparer du lait caillé. D'ailleurs, le jour commence à baisser, vous traverserez plus sûrement le Rhin au clair de la lune. » Nous partîmes. Peu d'instants après, nous franchissions la porte basse de la ville qu'entourait une vieille muraille de cailloux qui conservait encore quelques créneaux. Nous avançâmes dans la campagne. Après avoir longé un mur pendant une centaine de pas, Nous nous arrêtâmes devant une petite porte. Gagin l'ouvrit et nous fit prendre un chemin escarpé sur les côtés duquel étaient étagées des vignes. Le soleil venait de se coucher. Un ton pourpre d'une extrême finesse colorait les vignes, les échalas qui les soutenaient, la terre desséchée et couverte de fragments d'ardoise, ainsi que les murs blancs d'une petite maison dont les fenêtres toutes claires étaient encadrées de barres noires et vers laquelle se dirigeait le sentier que nous gravissions. « Voici notre demeure !» s'écria Gagin lorsque nous fûmes arrivés à peu de distance de la maison. « J'aperçois du même coup notre hôtesse qui nous apporte du lait pour nous rafraîchir. « Guten Abend, madame !» lui cria-t-il. « Nous allons faire notre petite collation. » « Tout à l'heure, mais avant tout, dit-il, regardez autour de vous et dites-moi ce que vous pensez de ce point de vue. » Le site qu'il me montrait est effectivement admirable. À nos pieds, les eaux argentées du Rhin, enflammées au milieu par le pourpre du couchant, coulaient entre des rives verdoyantes. La ville, paisiblement assise sur le rivage, étalait à nos yeux toutes ses maisons et toutes ses rues. Les coteaux, les champs se déployaient alentour. Si ce que nous avions à nos pieds était beau, plus ravissant encore était le spectacle au-dessus de nos têtes. On était frappé de la profondeur et de la limpidité du ciel, de la transparence et de l'éclat de l'air. Pures et légères, les ondulations de la brise s'agitaient mollement autour de nous. Elle aussi semblait se complaire sur les hauteurs. « Vous avez choisi une admirable habitation, » dis-je à Gagin. « C'est Anouchka qui l'a découverte, » me répondit-il. « Allô, Anouchka, donne tes ordres. Fais-nous tout apporter ici, nous souperons en plein air pour mieux entendre la musique. « Avez-vous remarqué, » ajouta-t-il en se tournant vers moi, « que tel air de valse, qui de près paraît détestable, » entendu de loin, charme et fait vibrer toutes les cordes poétiques du cœur. Anouchka se dirigea vers la maison et en ressortit au bientôt accompagnée de l'hôtesse. Elles apportaient ensemble un énorme plateau sur lequel se trouvait un pot de laitage, des cuillères, des assiettes, du sucre, des fruits et du pain. Nous nous assîmes et nous commençâmes à manger. Anouchka ôta son chapeau. Ses cheveux noirs, coupés courts, tombaient en grosses boucles sur ses oreilles et son cou. Ma présence paraissait la gêner, mais Gagin lui dit « Alors, Anouchka, fais pas le hérisson, il te mordra pas. » Ces mots la firent sourire et peu de temps après, elle m'adressait la parole sans le moindre embarras. Elle ne restait pas une minute en repos. À peine assise, elle se levait, courait vers la maison et reparaissait de nouveau en chantant à demi-voix. Souvent elle riait et son rire avait quelque chose d'étrange. On lui dit qu'il n'était pas provoqué par ce que l'on disait devant elle, mais par des idées qui lui traversaient l'esprit. Ses grands yeux vous regardaient en face, ouvertement, avec hardiesse, mais parfois elle clignait ses paupières et son regard devenait tout à coup profond et caressant. Nous causâmes pendant 2 heures à peu près. Il y avait longtemps que le jour avait disparu et la lumière du soir, d'abord resplendissante de feu, puis sereine et vermeille, plus tard enfin confuse et blafarde, se confondit peu à peu avec les ténèbres de la nuit. Cependant, notre causerie se prolongeait encore. Gagin fit apporter une bouteille de vin du Rhin, nous la vidâmes sans nous presser. La musique n'avait pas cessé, mais les sons que le vent nous apportait paraissaient plus suaves. Dans la ville et sur la rivière, des feux commençaient à s'allumer. Anouchka baissa subitement la tête, ses cheveux bouclés lui tombèrent sur le front, puis elle devint silencieuse et soupira. Au bout de quelques instants, elle nous dit qu'elle avait sommeil et rentra dans la maison. Je la suivis du regard et je la vis longtemps se tenant immobile dans l'ombre derrière la fenêtre fermée. Enfin, la lune se montra à l'horizon et ses rayons firent scintiller doucement les eaux du Rhin. Tout changea soudainement de face. Des clartés, puis des ombres surgirent de toutes parts, et le vin de nos verres à facettes prit lui-même un éclat mystérieux. Le vent ne soufflait plus. Il venait de s'arrêter brusquement, comme un oiseau qui plie ses ailes. Une odeur subtile et chaude s'élevait du sol. « Il est temps de partir, m'écriai-je. Sans cela, je ne trouverai plus le passeur. » « Oui, il est temps, me répondit Gaguin. Nous prîmes le sentier qui descendait la montagne. Tout à coup, nous entendîmes des cailloux qui roulaient derrière nous. C'était Anouchka qui venait nous rejoindre. « Mais tu t'étais donc pas couché ?» lui dit son frère. Mais elle ne répondit pas et continua de descendre en courant. Quelques-uns des lampions que les étudiants avaient fait allumer dans le jardin jetaient encore une lueur mourante qui éclairait par l'envers le feuillage des arbres au pied duquel ils brûlaient et leur donnait un aspect solennel et fantastique. Nous retrouvâmes Anouchka au bord de l'eau. Elle causait avec le passeur. Je sautai dans la barque et pris congé de mes nouveaux amis. Gaguin me promit sa visite pour le lendemain. Je lui tendis une main qu'il serra. Je présentai l'autre à Anouchka, mais elle se borna à me regarder en hochant la tête. Le batelet se détacha du bord et le courant l'entraîna avec rapidité. Le passeur, vieillard robuste, plongea ses avirons avec effort dans les eaux noires du fleuve. « Vous venez d'entrer dans le reflet de la lune !» me cria Anouchka. « Vous l'avez brisé !» Je jetai les yeux sur la rivière. Ses vagues sombres se pressaient autour du bateau. « Adieu » fit-elle entendre encore une fois. « À demain !» ajouta Gaguin. Le bateau aborda. J'en descendis et regardai derrière moi, mais je ne vis plus personne sur l'autre rive. Le reflet de la lune s'étendait de nouveau, semblable à un pont d'or d'un bord du fleuve à l'autre. Les derniers accords d'une vieille valse de Lanner se fit entendre comme pour me jeter un adieu. Gaguin avait raison. Ces sons lointains m'émurent singulièrement. Je regagnai la maison à travers les champs, plongé dans une obscurité profonde, en aspirant avec lenteur l'air embaumé, et lorsque je rentrai dans ma petite chambre, je me sentis troublé jusqu'au fond de l'âme par l'attente confuse de je ne sais quel grand bonheur. Que dis-je ? J'étais déjà heureux. Pourquoi ? Oh, je n'aurais su dire, ni ce que je désirais, ni même à quoi je songeais, et pourtant... j'étais heureux. Cette surabondance de sensations bizarres et délicieuses à la fois, me faisant presque rire, j'entrais dans mon lit à la hâte et j'étais au moment de fermer les yeux, lorsque tout à coup je me rappelais que je n'avais pas songé de toute la soirée à mon inhumaine. « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» me demandai-je. « Est-ce que je ne serai plus amoureux ?» Mais cette question resta sans réponse, et je m'endormis comme un enfant dans son berceau. Le lendemain matin, j'étais réveillé, mais encore dans mon lit, quand j'entendis le bruit d'une canne résonner sous ma fenêtre, et une voix que je reconnus pour celle de Gaguin m'envoya le chant suivant. « Si je te trouve encore dans les bras du sommeil, je viens te réveiller au bruit de ma guitare. » Je m'empressai de lui ouvrir ma porte. « Bonjour, me dit-il en entrant. Oh, je vous dérange de bien bonne heure, mais le temps est si beau. Voyez, une fraîcheur délicieuse, la rosée, le chant des alouettes. » Et lui-même, avec ses joues roses, ses cheveux bouclés et son col à demi nu, avait toute la fraîcheur du matin. Je m'habillai, nous passâmes dans mon petit jardin et prîmes place sur un banc. On nous y apporta le café et nous nous mîmes à causer. Gaguin me fit part de ses projets d'avenir. Possesseur d'une assez belle fortune et ne dépendant de personne, il voulait se consacrer à la peinture et ne regrettait qu'une chose, c'est de ne s'y être pris un peu tard et d'avoir dépensé beaucoup de temps en pure perte. Je lui confiai à mon tour les plans que j'avais formés et je saisis l'occasion de lui faire confidence de mon amour malheureux. Il m'écouta patiemment, mais je pus remarquer que les souffrances de mon cœur ne lui inspiraient qu'un médiocre intérêt. Après avoir par politesse accueilli mon récit de 2 ou 3 soupirs, il me proposa de venir chez lui voir ses études. J'y consentis aussitôt. Nous partîmes, Anouchka n'était pas à la maison. L'hôtesse nous dit qu'elle devait être aux ruines. On appelait ainsi les restes d'un vieux château féodal qui s'élevait à 2 ou 3 kilomètres de la ville. Gaguine ouvrit devant moi tous ses cartons. Je trouvais que ses études avaient beaucoup de vie et de vérité, quelque chose de large et de hardi, mais aucune n'était achevée et le dessin me parut incorrect et négligé. Je lui exprimai franchement mon opinion. Oui, me dit, répondit-il en soupirant, vous avez raison, tout cela est mauvais et n'est pas mûri par la réflexion. Qui fait, je n'ai pas assez travaillé et notre maudite indolence slave finit toujours par l'emporter. Tant que l'œuvre est à l'état de projet, on dirait d'un aigle qui plane dans les airs. Nous nous croirions de force à remuer le globe, puis au moment de l'exécution arrivent les défaillances et puis la fatigue. Je lui adressai quelques paroles d'encouragement, mais il m'interrompit d'un geste de la main, ramassa tous ses cartons et les jeta pêle-mêle sur le canapé. Si la persévérance ne me fait pas défaut, j'arriverai, dit-il entre ses dents. Dans le cas opposé, je végéterai en hobereau, éternellement mineur. Allons chercher Anouchka. Le chemin qui conduisait à la ruine longeait le flanc d'un vallon étroit et boisé. Au fond, un ruisseau rapide courait avec bruit au milieu des pierres, comme s'il avait hâte d'aller se perdre dans le grand fleuve qu'on voyait briller au loin derrière le sombre rempart de montagnes escarpées. Gaguine me fit remarquer plusieurs effets de lumière très harmonieux, et ses paroles me révélèrent, sinon un peintre de talent, du moins un véritable artiste. La ruine apparut bientôt à nos yeux. C'était au sommet d'un roc aride, une tour carrée, complètement noircie, solide encore, mais comme fendue du faîte à la base par une lézarde profonde. Des murs couverts de mousse se rattachaient à la tour. Le lierre grimpait çà et là, des arbrisseaux rabougris s'échappaient des embrasures grisâtres des voûtes effondrées. Un sentier pierreux conduisait à une porte d'entrée restée debout. Nous n'en étions plus guère éloignés lorsqu'une forme féminine se montra tout à coup à nos yeux, bondit légèrement par-dessus un amas de décombres et se dressa sur la saillie d'un mur au bord d'un précipice. Mais je me trompe pas, s'écria Gaguine, c'est Anouchka, quelle tête folle! Nous franchîmes la porte et nous nous trouvâmes dans une petite cour presque entièrement remplie d'orties et de pommiers sauvages. C'était bien Anouchka qui s'était assise sur la saillie de la muraille. Elle tourna la tête de notre côté, se mit à rire, mais sans bouger de sa place. Gaguine la menaça du doigt, et moi je lui reprochais son imprudence en élevant la voix. Taisez-vous, me dit Gaguine à l'oreille. Laissez-la faire. Vous sauriez croire ce dont elle est capable quand on l'irrite. Oh, elle grimperait au sommet de la tour. Admirez plutôt l'esprit industrieux des gens du pays. Je me retournai et j'aperçus dans un coin une baraque en planches, au fond de laquelle était blottie une vieille femme qui tricotait un bas, nous glissant de côté un regard sous ses lunettes. Elle tenait un débit de bière, de gâteaux et d'eau de Seltz à l'usage des touristes. Nous nous assîmes sur un banc et nous mîmes à boire dans de lourds gobelets d'étain une bière qui ne manquait pas de fraîcheur. Anouchka se tenait toujours assise à la même place, ses pieds repliés sous elle, la tête enveloppée de son écharpe de mousseline. Le contour charmant de son visage se détachait nettement sous le ciel bleu. Mais je la regardais avec une certaine irritation. J'avais déjà cru remarquer la veille que ses manières étaient affectées et peu naturelles. Elle veut nous étonner, pensais-je, mais pourquoi? Quelle lubie d'enfant! On eût dit qu'elle avait deviné ma pensée, car, jetant sur moi un regard pénétrant et rapide, elle se mit de nouveau à rire, descendit du mur en deux sauts, puis s'approchant de la vieille, elle lui demanda un verre d'eau. « Ah, tu crois que je veux boire ?» dit-elle à son frère. « Non, non, je veux arroser là-bas sur le mur des fleurs qui se meurent, desséchées par le soleil. » Gagi ne lui répondit pas. Elle partit, son verre à la main, et grimpa encore une fois sur les ruines. S'arrêtant par instant, elle se baissait et versait avec une gravité comique quelques gouttes d'eau qui étincelaient au soleil. Ses mouvements étaient fort gracieux, mais je continuais à la suivre des yeux avec déplaisir, tout en admirant sa légèreté et son adresse. Arrivée à un point dangereux, elle nous alarma exprès en poussant un petit cri et se prit aussitôt à rire. Cela mit le comble à mon impatience.
« Mais c'est une véritable chèvre !» marmotta entre ses dents la vieille qui avait interrompu son ouvrage.
La dernière goutte de son verre d'eau étant versée, Anouchka vint enfin nous rejoindre en se balançant sur ses hanches d'un air mutin. Un sourire étrange contractait par moments ses lèvres et dilatait les ailes de son nez et l'arc de ses sourcils. Elle clignait ses yeux noirs d'un air de raillerie provocante. « Vous trouvez ma conduite inconvenante ?» semblait dire sa figure. « Peu importe, je sais que vous m'admirez. » « Parfait, charmant, Anouchka, » dit Gagin. La jeune fille parut tout à coup éprouver un sentiment de honte, et baissant les yeux, elle vint s'asseoir timidement à nos côtés comme une coupable. Pour la première fois, j'examinais ses traits attentivement, et j'en ai rarement vu de plus nobile. Quelques instants s'étaient à peine écoulés que son visage avait complètement pâli et s'était empreint d'une expression touchant presque à la tristesse. Il me sembla même que ses traits avaient pris de la grandeur, de la simplicité. Elle semblait entièrement absorbée. Nous explorâmes minutieusement les ruines. Anouchka marchant derrière nous, et nous commençâmes à admirer les points de vue. Lorsque l'heure du dîner fut venue, Gagin paya la vieille et lui demanda une dernière cruche de bière, puis se tournant vers moi, il me dit avec un sourire malin « À la dame de vos pensées !»« Ah, il a donc... Enfin, vous avez donc une dame à qui vous songez ?» me demanda Anouchka.
« Et qu'il n'en a pas !» répondit Gagin.
Anouchka resta quelques instants pensive. L'expression de sa figure changea de nouveau, et un sourire de défi presque insolent parut encore une fois sur ses lèvres. Nous reprîmes le chemin de la maison, et Anouchka recommença à rire et à folâtrer avec plus d'affectation encore qu'auparavant. Ayant cassé une branche d'arbre, elle la posa sur son épaule comme un fusil et enroula son écharpe autour de sa tête. Je me souviens que nous rencontrâmes alors une nombreuse famille d'Anglais blondins à l'air guindé. Tous, comme s'ils eussent obéi à un mot d'ordre, arrêtèrent sur Anouchka leurs yeux de faïence dans lesquels se baignit une stupéfaction froide. Elle se mit à chanter à pleine voix comme pour les narguer. Lorsque nous rentrâmes, elle se retira immédiatement chez elle et ne reparut plus qu'à l'heure du dîner, parée de sa plus belle robe, coiffée avec soin, sa taille serrée dans son corset et les mains gantées. À table, elle se tint avec dignité,
goûta à peine à quelques plats et ne but que de l'eau. Il était évident qu'elle voulait jouer un nouveau rôle en ma présence, celui d'une jeune personne modeste et bien élevée. Gagin la laissa faire. On voyait qu'il avait l'habitude de ne la contrarier en rien. Parfois seulement, il se bornait à me regarder en haussant légèrement les épaules, et son œil bienveillant semblait me dire « C'est une enfant, soyez indulgent. » Aussitôt après le dîner, elle se leva, nous fit une révérence, et mettant son chapeau, elle demanda à Gagin si elle pouvait aller voir Dame Louise. « Depuis quand as-tu besoin de ma permission ?» lui répondit-il avec son sourire habituel, qui cette fois était légèrement contraint. « Tu t'ennuies donc avec nous ?»«
Non, mais hier j'ai promis à Dame Louise d'aller la voir. Puis je crois que vous serez plus à votre aise sans moi. » « Monsieur, ajouta-t-elle en me désignant, te fera peut-être encore quelques confidences. »
Et elle partit. « Oh, Dame Louise, me dit Gagin en cherchant à éviter mon regard, est la veuve de l'ancien bourgmestre de la ville. C'est une vieille femme un peu simple, mais excellente. Elle a beaucoup d'amitié pour Alanouchka. Celle-ci, du reste, a la manie de se lier avec des gens d'une condition inférieure. » Manido, autant que j'ai pu le remarquer, la source est presque toujours l'orgueil. Voyez-vous, ajouta-t-il après un moment de silence, Alouchka est traitée par moi en enfant gâté, et cela ne peut être autrement. Je ne sais être exigeant envers personne, comment le serais-je envers elle? Je ne répondis rien. Gagin mit la conversation sur un autre sujet. Plus j'apprenais à le connaître, plus il m'inspirait d'attachement. Je me rendis bientôt compte de son caractère. C'était une belle et bonne nature russe, droite, honnête et simple, mais dépourvue malheureusement d'énergie et d'ardeur. Sa jeunesse ne jetait pas feu et flamme. Elle brillait d'une lueur douce et pâle. Il avait de l'esprit et une grâce charmante. Mais combien il était difficile de présager ce qu'il en viendrait de lui à l'âge d'homme. Un artiste, oh non. Tout art demande un labeur pénible, des efforts assidus. Et jamais, me disais-je en regardant ses traits placides, en écoutant sa parole traînante, jamais il ne saura s'astreindre à un travail constant et bien dirigé. Et pourtant, il était impossible de ne pas l'aimer. On s'attachait à lui involontairement. Nous passâmes près de 4 heures ensemble, tantôt côte à côte sur le divan, tantôt nous promenant à pas lents devant la maison, et cet entretien acheva de nous unir. Le soleil se coucha, et je ne songeais à retourner chez moi. Anouchka n'était pas encore entrée. « Oh, quel enfant volontaire !» s'écria Gagin. « Tenez, je vous reconduirai, le voulez-vous ?»« En passant, nous entrerons chez Dame Louise pour savoir si elle y est encore. Ça ne vous fera pas faire un grand détour. » Nous descendîmes dans la ville et, après avoir suivi quelques instants une rue étroite et tortueuse, nous nous arrêtâmes devant une maison haute de 4 étages, mais qui n'avait que 2 fenêtres dans sa largeur. Le second étage avançait sur la rue plus que le premier et ainsi des 2 autres. Cette étrange habitation, aux moulures gothiques, juchée sur 2 énormes poteaux et dominée par un toit pointu en tuiles et une lucarne surmontée d'une grue en fer allongé en forme de bec, faisait l'effet d'un oiseau énorme replié sur lui-même. « Alouchka !» cria Gagin. « Es-tu là ?» Une fenêtre éclairée s'ouvrit au 3e étage, et nous y aperçûmes la tête brune de la jeune fille. Derrière elle se montra la figure édentée d'une vieille Allemande aux yeux affaiblis par l'âge. « Me voici !» dit Anouchka en s'accordant avec coquetterie sur l'appui de la croisée. « Je me trouve bien ici. Tiens, prends cela » ajouta-t-elle en jetant à Gagin une branche de géranium. « Figure-toi que je suis la dame de tes pensées. »
Dame Louise se mit à rire. « Il s'en va, » reprit Gaguine. « Il a voulu te dire adieu. »«
Vraiment ?» dit Anouchka. « Eh bien, puisqu'il part, donne-lui ma branche. Je vais rentrer tout à l'heure. »
Elle referma vivement la fenêtre et je crus la voir embrasser la vieille Allemande. Gaguine me tendit la branche en silence. Sans dire un mot, je la mis dans ma poche et m'étant rendu à l'endroit où l'on traverse le fleuve, je passai sur l'autre rive. Je me rappelle que je cheminais vers la maison, le cœur singulièrement triste, quoique je ne songeasse à rien, lorsqu'une senteur bien connue connut de moi, mais assez rare en Allemagne, éveilla subitement mon attention. Je m'arrêtai et vis près de la route un terrain ensemencé de chanvre. Le parfum que répandait cette plante de nos steppes me transporta soudainement en Russie et provoqua dans mon âme un élan passionné vers la patrie. Je conçus le désir ardent de respirer l'air natal et de sentir sous mes pieds le sol du pays. « Mais que fais-je ici ? » m'écriai-je. « Mais quel intérêt ai-je à errer sur une terre étrangère parmi des hommes qui ne me sont rien ?» Et l'oppression qui accablait mon cœur fit place aussitôt à une émotion violente et pleine d'amertume. Je rentrai chez moi dans une disposition d'esprit diamétralement opposée à celle de la veille. Je me sentais presque irrité et je fus longtemps à me calmer. J'éprouvais un profond dépit dont je ne pouvais me rendre compte. Je finis par m'asseoir et le souvenir de ma veuve perfide s'étant présenté à mon esprit. Elle m'occupait officiellement chaque soir. Je pris une de ses lettres, mais je ne l'ouvris même pas, car ma pensée avait pris son vol d'un autre côté. Je me mis à rêver et Anouchka était le sujet de ma rêverie. Il me revint à la mémoire que, dans le cours de notre conversation, Gaguine m'avait donné à entendre que certaines circonstances l'empêchaient de rentrer en Russie. « Qui sait si c'est bien sa sœur ?» me demandai-je à haute voix. Je me couchai et j'essayais de m'endormir, mais une heure après, j'étais encore appuyé sur mon coude et songeais de nouveau à cette capricieuse petite fille au rire forcé. Elle a les formes de la Galatée de Raphaël du palais Farnèse, murmurai-je. « Oui, c'est bien cela, et ce n'est pas sa sœur. » Pendant ce temps, la lettre de la veuve reposait tranquillement sur le plancher, éclairée par un pâle rayon de la lune. Le lendemain matin, je me rendis à elle. Je me persuadais que j'aurais le plus grand plaisir à voir Gaguine, mais le fait est que j'étais secrètement poussé par le désir de savoir comment Anouchka se comporterait si elle se montrerait aussi bizarre que la veille. Je les trouvais tous les deux dans le salon, et chose singulière, mais qui tenait peut-être à ce que j'avais longtemps, pendant la nuit, rêvé à la Russie, Anouchka me parut tout à fait russe. Je m'y trouvais l'air d'une jeune fille du peuple, presque l'une de nos femmes de chambre. Elle portait une assez vieille robe, ses cheveux étaient rejetés derrière ses oreilles, et, assise auprès de la fenêtre, elle brodait lentement, d'un air calme, comme si elle n'avait jamais fait autre chose de sa vie. Les yeux fixés sur son ouvrage, elle ne parlait presque pas, et ses traits avaient une expression si terne, si vulgaire, que je songeais involontairement au matcha et au katia de chez nous. Pour compléter la ressemblance, elle se mit à fredonner la chanson « Ô ma mère, ma douce colombe !» Et pendant que j'observais son visage, les rêves que j'avais faits la veille me revinrent à l'esprit. Et je sentis mon cœur se serrer sans pouvoir me dire pourquoi. Le temps était magnifique. Gaguine nous dit qu'il avait l'intention d'aller dessiner d'après nature. Je lui demandai la permission de l'accompagner, si toutefois cela ne le gênait pas. « Au contraire, me dit-il, vous pourrez me donner de bons conseils. » Il mit une blouse, se coiffa d'un chapeau rond à la Vandyke, prit son carton sous le bras et partit. Je le suivis, Anouchka resta à la maison. En partant, Gaguine la pria de veiller à ce que la soupe ne fût pas trop claire. Elle lui promit de jeter un coup d'œil à la cuisine. M'ayant amené dans la vallée que je connaissais déjà, Gaguine s'assit sur une pierre et se mit à dessiner un vieux chêne touffu. Je m'étendis sur l'herbe et pris un livre, mais j'en lus deux pages tout au plus. Gaguine, de son côté, ne fit qu'un mauvais barbouillage. En revanche, nous ne nous fîmes pas faute de discourir très amplement, et à mon avis, non sans esprit et justesse, sur la meilleure méthode à suivre pour travailler avec fruit, sur les écueils à éviter, le but auquel il faut tendre, et la mission du véritable artiste dans le siècle où nous vivons. Gaguine finit par déclarer que pour aujourd'hui il ne se sentait pas suffisamment en verve et vint se coucher auprès de moi. Pour lors, nous nous livrâmes à l'entraînement irrésistible de l'une de ces causeries si chères à la jeunesse, causeries tantôt enthousiastes, tantôt rêveuses et mélancoliques, mais toujours sincères et toujours vagues, dans lesquelles nous autres Russes nous aimons tant à nous épancher. Après avoir bavardé à satiété, nous reprîmes le chemin de la ville, très satisfaits de nous-mêmes, comme si nous venions d'accomplir une tâche difficile ou de mener à bonne fin une grande entreprise. Nous retrouvâmes Anouchka absolument telle que nous l'avions quittée. J'eus beau l'observer avec l'attention la plus minutieuse, je ne pus découvrir en elle ni une ombre de coquetterie, ni le plus léger indice dénotant un rôle étudié. Il était impossible cette fois de lui trouver la prétention de se singulariser. « Décidément, dit Gaguine, elle jeûne et fait pénitence. » Vers le soir, elle bâilla deux ou trois fois sans aucune affectation et se retira de bonne heure. Je pris congé de Gaguine bientôt après et rentrai chez moi. Je n'ouvris pas la porte aux rêveries. La journée prit fin sans que mon esprit éprouvât le moindre trouble. Seulement, il me semble qu'en me couchant, je prononçai involontairement à haute voix « Bon, cette petite fille, c'est une véritable énigme !» Et pourtant, ajoutai-je après m'être un instant recueilli, et pourtant, ce n'est pas sa sœur. Chapitre 6. Il s'écoula deux semaines après ces événements. J'allais chaque jour rendre visite à Gaguine. Anouchka semblait m'éviter et ne se permettait plus aucun de ces coups de tête qui m'avaient tellement choqué au premier jour de notre connaissance. Elle semblait cacher un chagrin ou une gêne secrète. Elle riait de plus en plus rarement. Je continuai à l'observer avec curiosité. Le français et l'allemand lui étaient assez familiers, mais une foule de choses faisait deviner que les soins d'une femme avaient fait défaut à son enfance et qu'elle avait reçu une éducation bizarre, décousue, tout à fait différente de celle de Gaguine. Dans celui-ci, malgré sa blouse et son chapeau à la Vandyke, on retrouvait bien vite le gentilhomme russe, nonchalant et légèrement efféminé, tandis qu'elle ne ressemblait nullement à une demoiselle noble. Tous ses mouvements accusaient une sorte d'inquiétude. C'était un sauvageon nouvellement greffé, un vin qui fermentait encore. Naturellement timide et défiante d'elle-même, elle était irritée de se sentir gauche et cherchait, dans son dépit, à se donner un air dégagé et hardi, mais n'y réussissait pas toujours. J'amenais plusieurs fois la conversation sur son passé et son genre de vie en Russie, et je remarquais qu'elle répondait d'assez mauvaise grâce à mes questions. Tout ce que je parvins à savoir, c'est que jusqu'au moment de son départ de Russie, elle avait habité la campagne. Un jour, je la trouvais seule et lisant. Sa tête était appuyée sur ses deux mains, ses doigts enfoncés dans ses cheveux. Elle dévorait des yeux un livre qui était devant elle.
Bravo! M'écriai-je en m'approchant. Quel amour de l'étude!
Elle leva la tête et me regardant d'un air sérieux et digne.
Vous pensiez donc que je ne savais que rire, me dit-elle.
Et elle se leva comme pour sortir. Je jetai les yeux sur le titre du livre. C'était un mauvais roman français.
Bon, vous auriez pu faire un meilleur choix, lui dis-je.
Mais que faut-il donc lire? S'écria-t-elle.
Et jetant le livre sur la table, elle ajouta.
Bon, ben, puisque c'est ainsi, je vais m'amuser.
Et elle courut vers le jardin. Le même jour, dans la soirée, je lisais à Gaguine Hermann et Dorothée. Au commencement de cette lecture, Anouchka allait et venait sans cesse de côté et d'autre, puis tout à coup elle s'arrêta, prêta l'oreille, s'assit doucement près de moi et écouta jusqu'à la fin. Le lendemain, je fus encore une fois surpris en ne reconnaissant plus l'Anouchka de la veille. Je finis par comprendre qu'elle s'était mise tout à coup dans la tête d'être une ménagère pénétrée de ses devoirs, comme l'était Dorothée. En un mot, son caractère me paraissait inexplicable. Malgré l'amour-propre excessif que je découvrais en elle, je me sentais séduit, même lorsqu'elle me fâchait. Un seul point acquis pour moi la force d'une certitude, c'est qu'elle n'était pas la sœur de Gaguine. Je ne lui trouvais pas envers elle la conduite d'un frère. D'une part, trop d'égards et de condescendance, et de l'autre, un peu trop de contrainte. Une circonstance étrange sembla, selon toutes les apparences, devoir fortifier mes soupçons. Un soir, en m'approchant du clos de vigne qui entourait la maison de Gaguine, j'en trouvai la porte fermée. Sans m'arrêter à cet obstacle, je gagnai un endroit où quelques jours auparavant j'avais remarqué qu'une partie de la haie était détruite et je sautai par-dessus la clôture. À peu de distance de là, à quelques pas du sentier, il y avait un petit berceau d'acacia. À peine l'avais-je dépassé que je distinguai la voix d'Anouchka qui s'écriait avec chaleur et en pleurant.
« Non, je n'aimerai jamais un autre que toi. Non, c'est toi seul que je veux aimer pour toujours. »«
Allons, calme-toi, lui répondit Gaguine. Tu sais bien que je te crois. »
Leur voix partait du berceau. Je les aperçus à travers le feuillage peu touffu. Ils ne me remarquèrent pas.
« Mais toi, toi seul, répéta-t-elle. »
Et se jetant à son cou, elle l'étreignit avec des sanglots convulsifs en le couvrant de baisers.
« Calme-toi, calme-toi » continuait-il de dire en passant sa main dans les cheveux de la jeune fille.
Je restais quelque temps immobile, enfin, je retrouvais mes esprits. Faut-il m'approcher d'eux ?«
Oh non, pour rien au monde !» me dis-je aussitôt.
Je regagnai la haie à grands pas et l'ayant franchi d'une enjambée, je repris en courant le chemin de ma maison. Je souriais, je me frottais les mains, je m'étonnais du hasard qui avait inopinément confirmé mes suppositions. Le moindre doute ne me semblait plus possible et en même temps, je me sentais au cœur une profonde amertume. « Il faut avouer, me dis-je, qu'ils savent bien dissimuler. Mais quel est leur but ?» Et moi, pourquoi me prendre pour dupe? Je ne m'attendais pas de sa part à un procédé pareil. Puis, quelle scène de mélodrame !